La résurrection, est-ce que ça vous intéresse de savoir comment ça marche ? Bon. Alors, oui, c'est un événement inexplicable, puissant, aussi fascinant que mystérieux, mais dont nous avons pris l'habitude de parler comme de quelque chose de normal, d'une banalité de la vie. Ça revient chaque année à Pâques. Une évidence de la foi. Bien, je vous propose ce matin d'approcher d'un peu plus près la loupe de notre foi, de ce phénomène, résurrection, en nous aidant, non pas de ce que nous avons en tête, mais des paroles de Paul qui sont partagées dans la première épître aux Corinthiens. Nous avions déjà médité ensemble, à l'automne dernier, le début de ce chapitre 15, et je vous propose ce matin d'en méditer la fin, et je ferai les lectures chemin faisant. Tout d'abord, alors pas tout de suite la lecture, hein, un petit peu tout à l'heure. D'ailleurs, si je peux, je peux prendre la main avec ça ? Ouais, merci. Comme là, ça je ferai avancer. Hop là, merci, parfait. Une remarque d'abord sur le langage de la résurrection. Nous avons pris l'habitude d'utiliser en fait le mot latin, un mot savant, abstrait, résurrection, presque technique, hein, pour désigner l'événement de Pâques. Mais les auteurs grecs du Nouveau Testament ne parlent jamais de résurrection. Leur langage est beaucoup plus concret et il est plus descriptif. Ils parlent de réveil. Ils parlent de relèvement. Ils parlent d'être rendu vivant. Finalement, des mots un petit peu de tous les jours. Hein. Le réveil, c'est tous les matins, ça dépend à quelle heure pour chacun de nous, mais sont des choses communes, des mots de la vie, pas des mots savants, ou même des mots religieusement marqués. Résurrection, tout de suite, on pense à la religion chrétienne. Et puis, deuxième observation, il y a plusieurs mots pour désigner l'événement de Pâques. L'événement de Pâques n'est pas enfermé dans un concept, un langage unique. Enfermé dans un tombeau théologique. Les mots du Nouveau Testament, que je viens de citer, réveil, relèvement, donnent de la couleur, donnent de la résonance, du mouvement à l'événement de Pâques. Au matin de Pâques, Jésus a été réveillé, relevé, rendu vivant. Et l'espérance chrétienne nous invite à croire que nous aussi, nous serons réveillés, relevés, rendus vivants. Nous avions mis en avant, à l'automne dernier, que la résurrection était un événement qui était impensable, qui relevait finalement de la foi seule, et non pas de la démonstration. Quelquefois, je me demande, en écoutant certains prédicateurs, s'ils ne se prennent pas un peu pour des théologiens légistes de la résurrection. Mais redisons-le avec force, la résurrection n'a de sens que dans la rencontre personnelle avec le ressuscité. Et dans cette foi, cette confiance qui en résulte. Et pour Paul, qui avait la science des petites phrases, la résurrection, c'est la mort qui est vaincue, renversée par la vie. La mort n'est plus le terme de la vie. C'est la vie qui est le terme de la mort en Christ. Pour Jésus, c'est fait. pour nous cet avenir. Mais alors me direz-vous, comment ça se passe, la résurrection ? Ce n'est pas moi qui pose cette question, c'est Paul. Mais alors me direz-vous, comment les morts ressuscitent-ils ? Littéralement, comment les morts se réveillent-ils ? Avec quel corps reviennent-ils ? Et Paul va partir de là, on va le voir, s'engager dans une longue réponse. On ne va pas tout lire, on va rester sur les idées-forces que Paul va développer à la fin de ce chapitre 15. Et la réponse de Paul est peut-être très longue, mais elle est, à mon sens, très simple. Et elle est surtout surprenante. Lisons. « Homme déraisonnable ou insensé, selon nos traductions. Ce que tu sèmes toi-même n'est pas rendu vivant sans mourir. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps à venir, c'est une simple graine. Un grain de blé, peut-être, ou une autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il le veut. À chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est celle des humains, autre, la chair des animaux, autre, la chair des oiseaux, autre, celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est la gloire des corps célestes, autre, celle des corps terrestres, autre est la gloire du soleil, autre, la gloire de la lune, et autre, la gloire des étoiles. Même une étoile diffère en gloire d'une autre étoile. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Semés périssables, on se réveille impérissable dans la gloire. Semés dans la faiblesse, on se réveille dans la puissance. Semés corps naturel, on se réveille corps spirituel. Jusqu'ici, cette progression dans le raisonnement de Paul, vous l'avez vu, Paul raisonne par comparaison. Et voilà à quoi il compare le relèvement des morts. Il compare ça, il nous donne un petit cours de botanique. Plus précisément, c'est le processus biologique qui conduit le grain à devenir une plante. C'est d'ailleurs très proche de la parole de Jésus. Hein. Si le grain tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Dans l'évangile de Jean. Donc Paul s'appuie ici un petit peu sur le sens commun. Chacun sait que le grain se transforme, se métamorphose en plante. Et de là, Paul va élargir la comparaison. Il va parler tour à tour du corps humain, de la vie humaine, des astres, de la lune, des étoiles, pour souligner, eh bien, l'immense variété des choses qui nous entourent. Il va évoquer leur gloire, leur éclat particulier, la beauté propre de chaque réalité de la création. Et il compare tout cela, c'est-à-dire la métamorphose, l'éclat, la diversité de la création, il compare tout cela à la résurrection, au relèvement des morts. Et après cette comparaison, Paul établit une opposition entre ce qui est périssable et ce qui est impérissable, ce qui est misérable et ce qui est formidable, ce qui est faible et ce qui est fort. Il oppose aussi le naturel au spirituel. Eh bien, la résurrection, c'est tout cela à la fois une rupture avec tout ce que nous connaissons, une différence irréductible et aussi une nouveauté insondable, éblouissante. Moi, je vais le redire avec mes mots à moi. C'est moins poétique, j'en conviens. La résurrection, on n'y comprend strictement rien. On ne peut pas en rendre compte. de façon rationnelle, par un savoir, une démonstration. Mais alors, ce qui est extraordinaire, c'est que pour Paul, cette impossibilité à percer le mystère de la résurrection, à exposer ce qui s'est passé au matin de Pâques, ce n'est pas du tout une source de frustration ou de confusion, de mal-être. C'est au contraire, pour lui, très apaisant de témoigner de cette impossibilité à comprendre, à capter, à saisir ce qui est au centre même de sa foi, Christ ressuscité. Vous savez, on dit que, on se moque un peu d'eux d'ailleurs, on dit des théologiens qu'ils passent leur temps à expliquer des choses qu'ils n'ont pas réussi à comprendre eux-mêmes. Et moi, ça me plaît beaucoup, ça. C'est ce que fait Paul ici. L'homme insensé, l'homme déraisonnable, finalement, c'est celui qui prétend tout comprendre, tout expliquer. Pas l'ignorant. Pas l'ignorant croyant. À bien y regarder, honnêtement, dans notre vie de tous les jours, il y a des choses inexplicables aussi. N'est-il pas vrai ? Essayez d'expliquer comment ça marche l'amour que vous ressentez pour votre amoureux ou pour votre amoureuse. La théorie de l'amour, c'est quoi ? Alors les chimistes vont vous expliquer le phénomène en vous parlant d'hormones, l'ocytine, c'est ça ? Ocytocine. Je ne suis pas chimiste, pardon. Mais en réalité, pour parler d'amour, pour expliquer, on est vite contraint à faire comme Paul, à utiliser des comparaisons. Et vous allez vous parler des papillons qui vous volent dans le ventre, ou bien des étoiles que vous avez plein les yeux, pour parler d'amour. Allez expliquer l'émotion qui vous saisit à l'écoute de la passion selon saint Matthieu de Jean-Sébastien Bach. Ou de Wild Horses des Rolling Stones. Mais ça dépend un petit peu des goûts et des... Je sais pas. Moi, c'est un peu les deux. Hein, mais vous pouvez invoquer tous les théorèmes de la physique acoustique. Vous n'expliquerez pas l'émotion elle-même. Elle est insaisissable. Elle est inexplicable. Conclusion, ce n'est donc pas parce qu'un phénomène est inexplicable qu'il n'existe pas. Et d'ailleurs, regardez de près les récits de la résurrection chez Matthieu, Marc, Luc et Jean. Aucun ne filme dans le tombeau ce qui se passe dans la nuit du samedi au dimanche. Ce réveil, ce retour à la vie, aucun. Dans l'évangile de Marc, je prends le plus court, c'est spectaculaire, les mots sont quelques mots seulement pour dire ce qui se passe. Les femmes, donc, se trouvent là au matin du troisième jour devant un tombeau vide. Elles voient un jeune homme en blanc qui leur dit « Écoutez bien, n'ayez pas peur. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est réveillé. Il n'est pas ici. » Rien n'est décrit. Rien n'est expliqué. Seul le fait est annoncé. La résurrection, par contre, est très expliquée, très racontée dans les évangiles qu'on appelle évangiles apocryphes. Parce que vous savez, nous, on a 4 évangiles, mais l'Église, dans les 4 premiers siècles, elle a dû faire la sélection. Il y en avait, on dit, 80 évangiles, des récits, des biographiques de la vie du Christ. Ces évangiles apocryphes se perdent dans des descriptions infinies, détaillées du phénomène de la résurrection. Ils expliquent comment ça marche. Pas Matthieu, pas Marc, pas Luc, pas Jean. Il ne s'intéresse pas au comment, seulement au constat de l'événement, du tombeau vide. Il était mort, il est revenu à la vie, il a rencontré ses disciples. C'est la discrétion qui est de mise dans les écrits du Nouveau Testament. Il n'explique rien, il proclame. Et Paul fait pareil, une longue dissertation pour expliquer qu'à propos de la résurrection, à propos de la vie dans l'au-delà, on ne peut rien savoir. Rien d'autre que métamorphose, rupture radicale, différence irréductible. Cela nous échappe. Et ce qui est merveilleux, c'est que ce matin, on peut le dire tranquillement et joyeusement. Cela nous échappe. C'est ce que Paul continue à faire dans la suite de ce chapitre 15. Je continue la lecture. Merci. C'est pourquoi il est écrit « Le premier homme, Adam, devint un être vivant, naturel. Le dernier Adam, lui, est devenu un esprit qui fait vivre. » Ce n'est pas le spirituel qui est premier, c'est le naturel. Le spirituel vient ensuite. Le premier homme, tiré de la terre, est fait de poussière. Le deuxième homme vient du ciel. Et de même que nous avons porté l'image de celui qui est fait de poussière, nous portons aussi l'image du céleste. Je vais vous dire un mystère. Nous ne nous endormirons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. Car elle sonnera et les morts se réveilleront, impérissables. Et nous, nous serons changés. Il faut en effet que le périssable revête l'impérissable et que le mortel revête l'immortalité. Alors ce sera accompli la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Alors ce sera accompli la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, vous l'avez senti, Paul a changé de registre. On n'est plus dans la botanique. Il revient au langage biblique, le langage de la création. Il parle d'Adam, de poussière. On a l'habitude de cela. Pour dire quoi? Pour dire que l'action de Dieu consiste à faire reculer le chaos. C'est cela avant tout l'acte de création. Ce n'est pas d'abord les petits oiseaux et les petites fleurs. L'action de Dieu fait reculer le chaos, les ténèbres, la solitude. Et elle lui oppose un ordre nouveau. Et dans cet ordre nouveau, la lumière, la vie, l'harmonie et la rencontre sont de mise, sont possibles, offertes. La résurrection pour Paul, c'est une création renouvelé, un acte de Dieu qui met en échec les forces de mort. Ici et maintenant, la mort elle-même est défaite. Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton aiguillon? Vous savez ce que c'est que l'aiguillon? À quoi ça sert? C'est le langage des éleveurs, hein. C'est la pique avec laquelle vous poussez le bétail pour qu'il avance. Ce n'est plus la mort qui est aux commandes de notre humanité, qui nous pique vers la fosse. C'est la vie. Ce n'est plus la mort qui a le dernier mot sur notre vie. C'est la vie qui va devenir le nouvel aiguillon de notre existence. La vie telle que Dieu la donne à connaître, à reconnaître dans la personne du Christ réveillé, relevé, rendu à la vie. Au matin de Pâques. C'est à cette bonne nouvelle que tu es appelé, mon frère, ma sœur. Et je t'invite, au nom du Seigneur, à faire ce matin un pas décisif dans cette vie nouvelle que Dieu crée, recrée pour toi et à laquelle il t'appelle. La vie dépouillée, libérée, vidée de ses forces de mort. Quel programme! Quelle recréation, quelle récréation pour nous. Voyez qu'on n'a pas appris grand-chose ce matin sur le phénomène de la résurrection. On est toujours aussi ignorant sur le mode d'emploi. Je vous ai vendu la première diapo, quelque chose pour capter votre attention. Et je ne peux pas répondre à la question posée. Et c'est très bien comme ça. Mais ce qu'on a gagné est tellement plus important. On a gagné la vie. La vie dans sa plénitude. Et c'est ce que Paul affirme au terme de ce long exposé. On va pouvoir mettre ça. Voilà. Ainsi, mes chers frères et sœurs, montrez-vous fermes et inébranlables. Soyez toujours plus actifs dans l'œuvre du Seigneur, puisque vous savez que la peine que vous vous donnez, en union avec le Seigneur, n'est jamais perdue. Soyez fermes et inébranlables, actifs au service du Seigneur, dans l'union avec le Christ. Voilà le programme. C'est cela la résurrection. Une vie quotidienne, en fait, une vie toute simple, qui est faite de rencontres, de choix décisifs, de combats, de joies, de peines, de doutes, de retour à Dieu par la foi. Tout cela est vécu dans l'union avec le Christ. Une vie, oui, de relation, c'est pour ça que nous formons une église ce matin. Des relations et des services et des actions à vivre à fond. Une vie qui puise ses forces dans la rencontre décisive avec le ressuscité. Et alors à tous ceux qui demandent des informations sur le comment ce sera après, et qui angoissent même quelquefois avec l'au-delà et le comment ça marche, une réponse est donnée, toute simple. Ma sœur, mon frère, tout cela c'est l'affaire de Dieu. Toi, tu es appelé à vivre dans cette foi libératrice de toutes les forces de mort qui te retiennent encore prisonnier. Saisis-la. Je ne sais pas quel théologien a dit ça, mais c'est une phrase qui me plaît beaucoup. Le chrétien, c'est celui qui a sa tombe derrière lui, pas devant. Alors oui, comme disait la parole de Moïse en Deutéronome, saisis la vie afin que tu vives. Voilà la solide promesse de Dieu pour toi. Christ a ouvert la route de cette vie nouvelle. Il n'y a plus qu'à lui emboîter le pas. Amen.